Laudetur Jesus Christus.
Une rencontre directe entre Moscou et Washington, la première depuis l'invasion russe en Ukraine. À Riyad, un tête-à-tête entre les chefs de la diplomatie russe et américaine a posé non seulement aujourd'hui les bases d'une normalisation des relations entre leurs deux pays, mais cela a marqué aussi le début d'une tentative de résolution du conflit en Ukraine. Un règlement du conflit sans Kiev, ni d'ailleurs les Européens, provoquant l'inquiétude de certains pays membres de l'UE. Le Danemark annonce un réarmement massif. En Pologne, c'est déjà fait, c'est ce que nous verrons dans ce journal. Les troupes israéliennes devaient se retirer du Liban. Du sud-Liban la nuit dernière en vertu de la trêve conclue avec le Hezbollah, mais Tsahal maintient 5 de ses positions au Grand Dam de Beyrouth. Enfin, direction la Syrie, nous donnons la parole aux anciens détenus de la prison de Sandaya 2 mois après la chute du régime de Bachar al-Assad. Ils réclament justice, mais avant ça, nous ferons un détour par Rome pour vous donner des nouvelles de la santé du pape.
Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
Bonsoir à tous. Hospitalisé depuis vendredi dernier au dernier étage du Gemelli, celui qui est réservé au souverain pontife, le pape François reste soumis à un repos absolu. Il dort, il lit, il prie, s'alimente aussi. Initialement soigné pour une bronchite, le Saint-Père a changé de traitement hier en raison d'une infection polymicrobienne des voies respiratoires. Un traitement qui met donc sur pause son rythme effréné. Il n'y aura pas d'audience générale demain, ni d'audience jubilaire samedi. La salle de presse du Saint-Siège a également fait savoir que le pape ne présidera pas la messe pour le jubilé des diacres prévus dimanche. Une nouvelle communication est attendue en début de soirée. À la une de l'actualité internationale, la fin de l'isolement russe et l'éclatement du camp occidental sur la question de la guerre en Ukraine se confirme après le coup de téléphone entre Donald Trump et Vladimir Poutine la semaine passée. Eh bien, une rencontre physique directe entre les chefs des diplomaties américaines et russes a eu lieu ce mardi à Riyad, l'Arabie saoudite servant de terrain neutre pour ce premier tête-à-tête entre les deux parties depuis le début de la guerre, il y a 3 ans, la guerre en Ukraine. Et au terme de 4h30 de discussion, l'administration Trump estime qu'un pas en avant important a été accompli. Un mécanisme de consultation pour régler leur contentieux va être établi. Des négociateurs pour le règlement de la guerre en Ukraine vont être nommés. Le Kremlin a évoqué une rencontre utile. La correspondance à Moscou de Jean-Didier Revoin.
La délégation russe s'est félicitée du sérieux des discussions, soulignant que la partie américaine avait mieux entendu la position de la Russie. Après 3 ans d'hibernation, les délégations russes et américaines ont convenu de rétablir des relations diplomatiques normales entre les deux pays, un préalable à la résolution de la crise ukrainienne. Certes, dans la matinée, le Kremlin avait fait savoir que Vladimir Poutine était prêt à négocier directement avec Volodymyr Zelensky et qu'il n'était pas opposé à une entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Des signes de bonne volonté qui ne sont pas de véritables concessions. Mais avant cela, il faudra constituer des équipes de haut niveau pour négocier la paix en Ukraine. Moscou a fait savoir que Vladimir Poutine nommerait personnellement son équipe dès que les membres de la délégation américaine seraient nommés. Enfin, les équipes russes et américaines ont précisé qu'elles avaient travaillé à l'organisation d'un sommet entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Leurs contacts se poursuivront, même si on ne connaît pas encore la date d'une rencontre qui signera le retour du président russe sur le devant de la scène internationale. Jean-Didier Revoin, Moscou, pour Radio Vatican.
Et les États-Unis promettent ce soir des opportunités extraordinaires si le conflit en Ukraine prenait fin. Marc Rubio précise qu'il négociera la paix, mais assure-t-il une paix durable et acceptable par tous? Les Européens devront prendre part aux discussions, promet-il, sans que Bruxelles, qui n'a d'ailleurs pas été confiée aujourd'hui, sache vraiment quand. Quant aux Ukrainiens directement évidemment concernés, ils ne reconnaîtront aucun accord négocié en leur absence. Le président Zelensky, aujourd'hui en Turquie, était attendu à Riyad, un voyage qu'il n'honorera plus, déplorant de ne pas avoir été même informé de la rencontre entre Américains et Russes de ce mardi. Les Européens mis sur le banc touche. Même leur proposition d'envoyer des troupes sur le terrain pour œuvrer à la paix en Ukraine a été rejetée par Moscou. Au Danemark, un plan de réarmement massif sera annoncé demain, a annoncé la première ministre du pays scandinave. Certains Européens voient en la Russie une menace croissante. Gardien de la frontière extérieure de l'Union européenne sur son flux oriental, la Pologne, dès 1991 et plus encore depuis le début de la guerre en Ukraine, a amorcé une profonde transformation de son armée, consacrant aujourd'hui 5% de son PIB à la défense. Amélie Zima est chercheure au Centre des études sécurité de l'IFRI, elle revient sur l'approvisionnement en armes des militaires polonais.
c'est principalement grâce aux États-Unis et à la Corée du Sud. Alors pour des raisons différentes, les États-Unis parce que ils ont des industries qui produisent des armements qui n'existent pas en Europe. C'est le cas par exemple de l'avion furtif F-35. Aucun industriel européen ne produit d'avion furtif, donc les Polonais vont se fournir justement sur quelque chose, sur un segment très technologique, très performant aux États-Unis. C'est aussi le cas pour les lance-roquettes multiples de type HIMARS. On n'en produit pas en Europe, donc les Polonais vont aux États-Unis. Et pour acheter en très grande quantité, là c'est plutôt du côté de la Corée, parce que la Corée c'est un pays qui est en guerre, qui fait face à la Corée du Nord et qui donc a maintenu une industrie de défense qui est capable de produire des quantités importantes dont ont besoin les Polonais, puisqu'on parle de 1000 tanks par exemple, qui doivent être d'un contrat comme ça qui a été fait avec la Corée du Sud. On a cette double logique et c'est une logique en fait qui laisse peu de place aux industries européennes, ce qui peut être reproché à la Pologne, mais la Pologne en fait estime qu'elle n'a pas le temps de voir l'industrie européenne à la fois monter en gamme et monter en quantité parce qu'elle est dans une situation d'urgence. La Pologne a peur qu'il y ait une mauvaise paix qui soit négociée avec l'Ukraine. Et s'il y a une mauvaise paix négociée avec l'Ukraine, ça donne un blanc-seing à la Russie. C'est une victoire symbolique de la Russie. Et la crainte, c'est que la Russie se retourne dans 4-5 ans vers les États baltes et la Pologne.
Des propos recueillis par Delphine Allaire. Israël exige une démilitarisation totale de la bande de Gaza à l'issue de la guerre. C'est avec cet objectif que démarrent cette semaine des négociations sur la deuxième phase de la trêve dans l'enclave palestinienne. Israël réclame également la libération de tous les otages aux mains du Hamas. Le mouvement islamique au pouvoir depuis 2007 à Gaza remettra les dépouilles de 4 otages ce jeudi, avant la libération samedi de 6 otages vivants. En contact avec Washington et Paris, Beyrouth dénonce une occupation israélienne sur son sol, promet de saisir aussi le Conseil de sécurité de l'ONU. L'accord de trêve conclu entre le Hezbollah et Israël n'est pas respecté. Malgré une expiration des délais convenus, les troupes de Tsahal sont toujours présentes dans 5 positions du Sud-Liban. Les explications de Santi Fortis.
L'armée israélienne continue de se retirer du Sud-Liban, mais le ministre de la Défense Israël Katz a encore affirmé ce matin que les troupes resteraient sur certains points stratégiques. 5 avant-postes qui offrent une surveillance optimale des zones sensibles et une capacité de réaction rapide en cas de menace. Des zones qui ont été particulièrement visées par les attaques du Hezbollah depuis le début de la guerre. Tsahal précise qu'ils resteront sur ces positions tant qu'il y aura des activités du Hezbollah au sud du fleuve Litani, l'objectif principal étant d'assurer une sécurité durable dans la région. Car le gouvernement a prévu le retour des quelques 70 000 habitants du nord évacués au début de la guerre pour le 2 mars. Ces derniers sont toutefois très inquiets quant à leur sécurité, car malgré le cessez-le-feu en vigueur depuis le 27 novembre, la menace du Hezbollah est encore présente. Au cours des dernières 24 heures, Tsahal a localisé et détruit une grande infrastructure souterraine du mouvement terroriste, un système complexe de tunnels comprenant de nombreuses pièces et des équipements de combat. Et malgré les affirmations du gouvernement libanais sur sa capacité à garder le contrôle à la frontière, la semaine dernière, les forces israéliennes ont découvert une voiture piégée contenant plusieurs kilos d'explosifs. Tsahal observe par ailleurs une augmentation des tentatives d'infiltration de drones. Au cours des 2 dernières semaines, 3 drones de reconnaissance ont pénétré l'espace aérien israélien depuis le Liban. Depuis le nord d'Israël, Sandy Fortis pour Radio Vatican.
Et puis demain, le préfet du Dicaster pour le service du développement humain intégral se rendra au Liban pour encourager l'église locale. Il rencontrera aussi le leader de la communauté sunnite libanaise ou encore un groupe de réfugiés syriens. En Syrie, cela fait 2 mois que Bachar al-Assad est tombé et la demande de justice est grande, notamment de la part des anciens détenus des geôles du régime. À Damas, une association a été créée pour soutenir les victimes et leurs familles. Elle demande le soutien du nouveau gouvernement. Reportage de notre envoyé Manon Chaplin.
C'est la première fois qu'Ahmed remet les pieds à Sednaya, cette prison fond tombeau comme il l'a longtemps surnommée. Il y a été emprisonné durant 6 ans, puni pour avoir rejoint les rebelles de l'armée syrienne libre. Face à l'immense bloc de béton gris, il tombe dans les bras d'un homme, son ancien co-détenu.
On a tous tellement souffert, tous les jours, la famine, les maladies. C'était pas vivable, mais on était ensemble, on mangeait, on dormait ensemble. On était 20 dans la cellule, puis un de nous co-détenus est mort. Aujourd'hui, j'ai l'impression de renaître.
L'impression de renaître, de devoir tout réapprendre. Ahmed souffre d'insomnie, de troubles post-traumatiques. Aujourd'hui, il est venu devant Sednaya pour trouver des réponses, réclamer le soutien du nouveau gouvernement.
Seul Dieu pourra vraiment nous aider, mais on demande tout de même un peu d'aide, surtout de l'aide médicale, un soutien psychologique. On demande aussi du travail, que l'on puisse gagner nos vies. Aujourd'hui, on est tous handicapés, on ne peut pas travailler.
Face à Sednaya, une estrade a été montée. Les témoignages d'anciens prisonniers réunis au sein de l'association des détenus de la révolution syrienne s'enchaînent. Créée au lendemain de la chute de Bachar al-Assad, elle demande à ce que les crimes de l'ancien régime soient jugés. Mohamed Al-Mourasht, l'un des fondateurs.
Les gardiens, le directeur de la prison et les juges qui nous ont condamnés doivent être jugés. Nous demandons justice, car même nos familles ont été victimes d'arnaques. Ils leur faisaient croire qu'on pouvait être libéré si elles donnaient de l'argent.
Le nombre de disparus dans les prisons est aujourd'hui estimé à 100 000 personnes.
À Damas, Manon Chaplin pour Radio Vatican.
Et puis enfin, dans l'est de la RDC, les Nations Unies accusent aujourd'hui le groupe armé du M23, dont les combattants alliés à des troupes rwandaises ont pris le contrôle de la ville de Bukavu, d'y avoir exécuté des enfants. Le commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a confirmé des cas d'exécution sommaire de tout petits. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi, merci de votre fidélité. L'actualité revient demain matin à 8h30. Excellente soirée à tous.